Alors, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 17 mars 2014. Le grand retour pour l'équipe du lundi, avec Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex pour aborder tout d'abord l'actualité internationale. Difficile de ne pas commencer par le sujet qui occupe tous les médias, à savoir l'Ukraine, ou plus exactement la Crimée. Du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, paraît-il, la Crimée aurait voté à 97% pour le rattachement à la Russie, avec une participation de 80%. C'est indiscutable. Alors évidemment, il y a plein de soubassements géopolitiques à cette affaire, mais il est clair que dans le contexte actuel, la population de la Crimée, à part quelques minorités qui risquent effectivement de souffrir de la situation, voire, comme littéraire, de repartir d'où ils étaient venus il n'y a pas si longtemps. Tout le monde est très satisfait de cette situation, puisque les gens de cette région sont russophones et russophiles. Mais bien sûr, on n'a pas l'habitude de voir des États faire sécession, on n'a pas l'habitude. Alors, les Occidentaux considèrent même que c'est une politique d'expansion de la Russie, et en sont à se demander si, aussi bien parti que ça, les Russes ne vont pas continuer à lorgner du côté des régions sud et est du pays qui sont aussi russophones. Est-ce que Poutine va vouloir reconquérir une partie de l'Ukraine et l'intégrer dans la Russie pour justement faire barrage à l'Europe et aux Occidentaux? C'est un peu ce que redoutent, semble-t-il, les diplomates occidentaux, qui essaient de mettre un peu de pression. Un peu, mais pas beaucoup, parce que d'ailleurs on ne peut pas en mettre trop sur tous les Allemands quand on a besoin du gaz russe pour faire fonctionner son économie et chauffer sa population. Donc c'est une situation où tout se mord un peu la queue, où tout le monde se tient par la barbichette, et pour le moment il semble que c'est Poutine qui tire le mieux son affaire du jeu. Alors côté Ukraine, ben évidemment, protestation, mobilisation pas générale mais partielle dans le pays. On veut croire que la situation est réversible et que l'Ukraine recouvrira ses droits sur la Crimée. Chacun peut y aller de ses perspectives. On peut quand même penser que cette Crimée, d'ailleurs, elle n'est pas russe que depuis si longtemps que ça, puisque c'est Khrouchtchev qui, en 1954, avait attribué la Crimée à l'Ukraine. Donc, pour les plus anciens du pays, ce n'est qu'un retour à une situation qu'ils avaient connue et peut-être qu'ils auraient souhaité voir perdurer. Situation donc compliquée, mais enfin, pour le moment, sans autre violence sur le terrain, beaucoup d'agitation dans les agences diplomatiques. Voilà, Robert, tu voulais peut-être aussi commenter un peu cette nouvelle situation depuis ce matin.
Oui, 80%, je cherchais le chiffre. Je crois
80%, c'est la participation, ça. Il y a peut-être eu un peu de bourrage d'urne, mais enfin, avec 96%, on peut quand même penser que, et puis c'était ce qui était prévu, en gros, hein, que la population a manifesté là son souhait, quoi.
80%, oui, parce que on connaissait à peu près les Tatars avec, disons, les pros occidentaux, on ne sait pas trop comment les appeler, ben, disons, ceux qui s'opposaient un peu à ce que voulaient les Russes, on disait que ça faisait 37% à peu près, donc un bon tiers. J'avais lu par contre que 7% ont voté pour, parce qu'en fait c'était, il y avait la possibilité aussi de voter pour l'autonomie, mais effectivement l'ensemble de l'appareil gouvernemental local de Crimée a fait la campagne de l'indépendance et du rattachement. Alors qu'il y avait aussi la possibilité éventuellement de voter pour l'autonomie, qui a recueilli 7%, et c'est relativement peut-être courageux, ou à défaut, ça montre qu'il y a quand même aussi une partie de la population, si on ajoute ceux qui ont boycotté, dont les Tatars justement, et puis d'autres, c'est quand même une partie de la population qui peut-être est entre les deux, c'est-à-dire dit on ne veut pas rester avec la nouvelle Ukraine. Qui n'a fait que finalement remplacer un oligarque par un autre oligarque qui plus gravement s'appuie sur des forces obscurantistes avec un passé nazi pour leurs parents ou leurs grands-parents, et eux-mêmes ne renient pas ce passé nazi. Donc ces gens se disent ce nouveau pouvoir ukrainien, il n'est pas mieux que le précédent, et il sera peut-être pire. Donc des gens qui attendent que se décante une solution intermédiaire entre le rattachement disciplinaire et discipliné à la Russie, et puis une position d'autonomie avec beaucoup de possibilités de disposer des pouvoirs, alors que en Crimée, le parlement local de Crimée n'avait pas tellement de pouvoir. Les grands pouvoirs régaliens, ils étaient à Kiev, en Crimée même. Donc, premier aspect, peut-être qu'effectivement, il y a sans doute quelque chose qui peut surgir entre les deux positions dites extrêmes. Et Poutine, qui est quand même un homme politique d'une grande capacité de maîtrise et d'habileté diplomatique, ne voit pas tellement d'intérêt pour l'instant d'élargir territorialement son influence. Bon, en même temps, il prend une revanche importante. Il estime, à juste titre d'ailleurs, comme les Chinois, qu'ils se sont fait berner en Libye, ils se sont fait berner en Irak, ils se font plus ou moins berner en Syrie, encore que si, bon, sur la Syrie, il y a beaucoup de choses à dire, mais ils ont l'impression que, de ce point de vue-là, c'était plutôt, ils étaient sur une position d'être mis un peu à l'écart en permanence. Et là, c'est une sorte de revanche. Je pense pas que ce soit dans l'esprit de Poutine de pratiquer la revanche, mais dans les rapports de force internationaux, c'est évidemment ça va compter, parce que là, on est bien quand même dans un affrontement des deux grandes superpuissances qui dominent encore. Bon, les États-Unis, c'est pas nouveau. La Russie s'est reconstruite depuis la chute du mur, 1990. D'autres pays vont aussi bientôt prétendre à ce rôle de grande puissance. Donc, la fin d'une situation unipolaire où tout se résolvait ou devait se résoudre autour de l'impérialisme nord-américain. Donc c'est intéressant, effectivement, ça cesserait de l'être si des bavures intervenaient, on veut dire par là, si des gens dans l'entourage des grandes chancelleries, et notamment toutes celles qui sont plutôt dans cette Europe anciennement soviétique. On sait que les Polonais sont très très remontés contre les Russes, et donc que des provocations, il peut y en avoir, et que des provocations en provocation, des fois ça peut conduire effectivement à des affrontements militaires dont, semble-t-il, actuellement personne ne veut.
Voilà pour ce sujet qui est certes important, en tous les cas chaud dans l'actualité, puisque c'est ce matin qu'on a appris les résultats du vote. Ceci dit, hein, le Parlement, la direction de la région Crimée avait déjà fait son choix et le Parlement de Crimée avait réclamé son rattachement à la Russie avant le vote. Donc c'est vrai que la voie était montrée. Quoi.
Oui, bon, après tout, c'est pas... On peut pas dire. D'ailleurs, je crois que les Russes sont très, très, très à cheval quand même sur le respect formel des constitutions. On peut pas leur faire ce reproche. Là, ils ont... Bon, c'était effectivement... d'ailleurs, on peut très bien concevoir effectivement qu'un Parlement donne une... vote quelque chose, c'est son rôle, mais que... pour donner plus de force derrière est organisé un référendum. C'est pas... Moi, je verrais bien des choses en France se passer comme ça. Hein. Non, c'est pas ton avis que ce que vote le Parlement.
Tu vois ce que
je pointe du doigt. Qu'on demande ensuite par référendum, ou on peut appeler ça autrement, parce que c'est un mot qui fait peur, à juste titre, le mot référendum en France. Mais qu'on demande ensuite, êtes-vous d'accord avec cette décision que vient de prendre le gouvernement ?
Tu vois la Corse rattachée à quoi, là ?
toutes les grandes réformes hein, sur la Nice, sur actuellement le pacte de responsabilité, sur parle des grandes réformes sociales, la sécurité sociale, sur
si c'est toutes les grandes réformes, je vois plutôt dans l'autre sens. Moi, d'abord le référendum populaire, puis le Parlement après.
Ça n'aurait pas de sens que le Parlement après, ça n'a pas de sens. Si le référendum donne le Parlement, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est exécuter la voie du référendum.
C'est bien ce qu'on attend de lui.
Oui, mais le contraire aussi est tout à fait pensable. De toute façon, un Parlement, ça, justement, on avait bien vu comment c'était passé sur le traité européen, et on aurait bien voulu que... On a inversé la situation, c'est-à-dire que le Parlement français a quand même voté le traité européen malgré le référendum défavorable de 2005. Eh bien, on aurait aimé qu'un nouveau référendum soit organisé derrière, et il ne l'a pas été.
Allez, autre sujet, tu voulais parler de quoi ?
Je te laisse le choix. Donc, on les petits. Par exemple.
Il y a la Serbie.
On peut rester dans cette période post-guerre froide, post-Union soviétique, avec un nouveau vote. Il y a souvent des votes en Serbie. Il y en a eu un nouveau, là, qui. Les nationalistes, on les appelle populistes, on les appelle un peu tous les noms, mais sont très largement majoritaires. Ils ont frôlé la majorité absolue, mais avec un autre parti, peuvent continuer de gouverner.
Ils l'ont pas frôlé, ils ont 60% des sièges au Parlement, hein, en 66
mais
sur 250.
Mais en alliance avec, non ?
Non, le parti progressiste serbe, le SNS, hein, c'est une victoire totale. Le PS n'a fait que 14%, il y a des démocrates 6%. Beaucoup d'autres partis qui étaient représentés ne le sont plus, c'est la razzia. C'est un peu étonnant parce que ce parti, enfin pas complètement, hein, qui est issu finalement du parti nationaliste de Milosevic, qui est maintenant dirigé par un type qui s'appelle Rocic. Donc ces politiciens un petit peu radicaux nationalistes se sont recyclés dans un parti, on va dire, de droite, mais pro-européen carrément, quoi. Enfin, parce qu'ils ont pensé, on peut se dire qu'ils ont dû penser qu'il y avait du business à faire avec l'Europe, et que s'il fallait vraiment aller de ce côté-là aujourd'hui, donc ils se sont un peu recyclés, tout en restant à droite, mais d'une droite moins radicale, quoi. Et du coup, ça plaît, ou la population qui suivait assez bien leur position embraye, parce que de toute façon, la situation sociale et économique est grave, et les gens espèrent que cette position-là leur redonnera un peu d'oxygène avec un partenariat économique avec l'Europe qui pourrait peut-être limiter le chômage et faire rentrer un peu de travail et de richesse. Oui, non, c'était une victoire. Alors, on parle en France de parti populiste. Bon, ça veut tout dire et rien dire. Hein. On peut surtout dire que c'est quand même un parti c'est de droite, mais pour le moment, qui s'est assagi par rapport à la radicalité d'il y a 15 ans. Quoi.
Et qui effectivement, laisse apparaître que La solution de économique n'est pas forcément du côté européen, et ils en doutent de plus en plus. Et ils ne sont pas les seuls. Hein. On a vu partout du nationalisme se réveiller dans ces anciens pays, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, qui laissent entendre que Roumanie, qui montre que l'Eldorado européen n'est pas forcément ce qu'ils croyaient ou ce qu'ils avaient, ce dont ils rêvaient.
Mmh. Voilà.
Peut-être un peu, on saute les océans et retrouve de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, si c'est comme les avions, on ne sait plus bien où on est, mais enfin, on va essayer d'atterrir quelque part quand même, Amérique latine par exemple.
Voilà, on va d'abord, oui, un tout petit pays, le Salvador, qui a rejoint les partis progressistes la semaine dernière avec l'élection. Il était déjà vice-président, donc il ne faisait plus tellement peur, mais c'est un ancien guerrillero qui est maintenant président du Salvador, avec un programme. Bon, ça va être difficile parce que il y a un Parlement, et le Parlement, il n'y a pas forcément de majorité absolue. Et c'est vrai d'ailleurs pour tous les pays, que ce soit par exemple l'Équateur, que ce soit le Venezuela, ils n'ont pas forcément la majorité absolue avec leur propre parti pour mettre en place des réformes radicales. Mais néanmoins, ça renforce toute cette partie de l'Amérique centrale avec le Nicaragua, petit pays, mais aux portes du grand géant nord-américain. Et puis, en même temps, est arrivée donc la prise de pouvoir effective au Chili. Bon, elle a été élue il y a plusieurs mois, Michel Bachelet, mais il y avait bon un temps d'attente avant d'exercer la réalité du pouvoir. Et sans attendre, elle a commencé déjà par majorer l'allocation de pauvreté qui est servie au Chili. Et puis aussi, mis en route un processus qui va conduire à la gratuité dans l'enseignement, et c'était une revendication importante, d'ailleurs, qui avait mis les lycéens et les étudiants dans la rue depuis plusieurs années au Chili. Alors, il faudra qu'elle fasse des lois. Alors, évidemment, il y aura des batailles au niveau du Parlement sur le contenu effectif de ces lois. Mais néanmoins, Michel Bachelet reprend ce qu'elle avait entamé il y a 8 ans, et que ça a duré 4 ans, et inverse la tendance de droite que son successeur avait donnée, aussi bien à l'économie. Elle va d'ailleurs là, alors c'est quelque chose qui ferait hurler François Hollande, elle va augmenter les impôts des sociétés. Alors tous les capitalistes chiliens vont se réfugier en France, sans doute, puisque Hollande les accueille bras ouverts.
On aimerait la voir faire un effort du côté des droits des femmes et mettre une législation sur l'IVG un peu plus conforme à chose de correct. On a du mal à comprendre.
Un obstacle qu'elle n'a pas encore osé ou pu franchir, je ne sais pas. Venezuela, c'est Maduro qui a beaucoup d'ennuis dans la rue, parce qu'effectivement, n'ayant pas le charisme de Chavez, il a beaucoup plus de mal à faire passer le message de la poursuite du socialisme du 21e siècle. Et il voit bien qu'aujourd'hui, y a quelque chose qui est important, il faut qu'il essaye de faire que ses rapports avec les États-Unis, qui étaient au niveau souvent du slogan, hein, parce que Chavez avait les mots qu'il fallait pour dénoncer le diable américain, Maduro ne les a pas, les mots qu'il faut. Alors que sur le plan économique, le Venezuela continue de vendre du pétrole aux Américains. Les Américains achètent du pétrole vénézuélien. Donc sur le plan économique, les portes sont loin d'être fermées. Mais néanmoins, sur le plan des rapports diplomatiques, Maduro, je pense qu'il en a besoin, et non pas du soutien des Américains, mais au moins de donner l'impression qu'il n'est pas le va-t-en-guerre pour renverser le capitalisme aux États-Unis notamment, ce qui effectivement étaient les notes d'humour de Chavez en général. Voilà donc cette Amérique latine qui, à sa manière, continue une avancée dans le progressisme. C'est pas la révolution, c'est pas le socialisme, c'est pas le communisme, mais c'est quand même quelque chose qui, semble-t-il, est différent et sans doute producteur d'avenir plus important que ce qui se passe actuellement au niveau de l'Union européenne. Au niveau de l'Union européenne, je peux dire un mot du Portugal. Portugal, où samedi, après d'autres corporations, aussi bien les ouvriers, les gens des hôpitaux, et puis les policiers, eh bien, samedi, c'était les militaires qui sont descendus dans la rue parce qu'on leur a sucré pas mal de choses, dont, près d'un tiers de leur salaire. Alors, évidemment, ces militaires-là qui sont dans la rue ne ressemblent pas forcément les militaires qui, il y a 40 ans, un certain 25 avril, ont renversé la dictature de Salazar. Mais néanmoins, c'est des militaires qui... c'est une image. Alors, peuvent-ils l'exploiter autrement que sur leurs propres revendications? Est-ce que ça peut servir à contrer le plan d'austérité, ce plan d'ajustement structurel que la Troïka impose et que le gouvernement de droite du Portugal met en place, contre l'avis de la Cour constitutionnelle? Alors, ça, c'est intéressant. C'est que la droite, finalement, a fait un coup d'État. La droite au pouvoir légale a fait une sorte de coup d'État puisqu'elle applique des lois que la Cour constitutionnelle a retoquées. Alors, après tout, les militaires peuvent bien descendre dans la rue, et pas seulement eux.
Voilà, autre sujet international, faut-il dire quelque chose de la Syrie, où bien sûr la guerre continue, on est entré dans la quatrième année, on estime à 146 000 le nombre de personnes tuées, combattants et non combattants, hein, et aussi à 9 millions de déplacés, ce qui est considérable et qui pose des problèmes dont on n'a pas fini d'entendre parler dans les pays autour, la Jordanie, le Liban, qui recueillent donc ces gens, puisque la France, je lisais, je crois, a royalement accueilli sur les 9 millions de déplacés 500 personnes. C'est pas très brillant, hein, dans les gens qui sont obligés de fuir le pays, quoi. Puis militairement, eh ben Bachar avance, maintient ses positions, a repris une ville avec ses forces loyalistes, Yabrout.
C'est important, hein, parce qu'elle était à la frontière du Liban, et c'était par cette zone frontalière que, effectivement, un certain nombre d'intrusions de part et d'autre pouvaient se faire. Et donc là, ça va peut-être d'ailleurs permettre au Liban de recouvrer une situation plus calme.
Voilà. Avais-tu d'autres sujets internationaux?
Mais en Syrie, ce qu'on peut ajouter, alors évidemment, ça fait hurler l'opposition, mais aussi les Occidentaux, c'est que Bachar, dans les élections présidentielles qui auront lieu à l'automne, je crois que c'est au mois d'octobre, il est candidat, et pour plus de sécurité, le Parlement a voté, non pas a voté le principe qu'il peut concourir parmi d'autres candidats. Alors il y aura d'autres candidats. Alors je ne sais pas trop quelles seront effectivement les possibilités et surtout s'il y aura des observateurs internationaux et puis bon, les conditions seront sans doute très difficiles de réaliser cette élection. Mais néanmoins, elle est programmée et les Syriens y tiennent beaucoup, enfin du moins le gouvernement et le pouvoir de Bachar el-Assad.
On voit pas bien comment les sunnites vont pouvoir présenter beaucoup de candidats. Hein. Mais bon, un mot d'un truc, c'est cette info sur la Libye. On sait que les terminaux pétroliers sont pris en main par des groupes rebelles un peu autonomes, quoi, qui s'opposent. Et ils ont réussi, donc c'est une difficulté pour le pays, puisqu'il n'y a plus d'exportation de pétrole. Ils ont réussi à faire partir un navire chargé de pétrole, donc qui a priori devait être vendu au profit des groupes qui tenaient les terminaux pétroliers. Et finalement, les Américains, quand le bateau est arrivé vers Chypre, ils l'ont arraisonné militairement, et ils ont pris possession et du bateau et de la cargaison. Ce serait étonnant qu'il n'y ait pas des répercussions politiques ou sur le terrain à cette action militaire américaine dans la vie politique de la Libye.
Bah, ils avaient l'habitude de prendre le pétrole irakien, donc c'est un peu dans la continuité. Évidemment, les formes sont plus spectaculaires, là, mais c'est un peu dans la continuité. On ne sait pas si ça va rejoindre les réserves de... Comment il s'appelait c'est pas le vice-président américain sous Bush, qui était le grand organisateur du pillage pétrolier en Irak. Là, je me souviens plus de son nom. Oui. Il en passe tellement dans ce petit monde des grands qui font la vie prétendument démocratique de la planète.
Et puis on approche des élections algériennes, hein, 17 avril, dans un mois, presque jour pour jour, quoi. Avec, on le sait maintenant, Bouteflika qui rempile pour un quatrième mandat dans un contexte complètement aberrant. Mais enfin, c'est comme ça, il n'est pas tout seul. Évidemment, il y a du monde que sa position intéresse et arrange, et qui donc soutient sa présence pour pouvoir continuer à garder les rênes du pouvoir. Il y a bien eu quelques réactions, mais il semble qu'il est parti pour être réélu, quoi.
Oui, j'ai appris un mot que je croyais déjà le connaître, et puis non, je l'ai redécouvert. Alors il y a quand même des manifestations qui arrivent à s'organiser. Elles ont pu se dérouler, elles n'ont pas rassemblé beaucoup de monde, mais de gens qui étaient hostiles à ce quatrième mandat auquel veut concourir Bouteflika. Et alors, il crie Barakat, c'est ce qui veut dire ça suffit. Alors, on connaît tous les pays où, effectivement, c'est un mot d'ordre très planétaire. Hein. Le mot ça suffit, c'est quand on ne veut plus d'un pouvoir ou d'un président. On fait la confusion à propos de l'Algérie avec d'autres événements qui se passent dans le sud, Gardaïa. Hein. Mais Gardaïa, c'est quelque chose qui... C'est un conflit larvé depuis très longtemps entre Arabes et Mozabites. C'est de temps en temps, ce conflit ressurgit avec des violences et notamment des destructions de magasins des Mozabites et tout ça. Mais c'est pas du tout, ça n'a rien à voir, on va dire, avec... on peut toujours dire que c'est parce que l'État n'a pas fait ce qu'il fallait pour que la paix civile règne dans ce coin-là, mais ça n'a pas de lien avec l'élection qui se prépare.
Allez, courte pause musicale avant d'aborder la rubrique nationale. On va la faire avec Éric Simonet qui chantera Sous le caillou ce jeudi 20 mars à 20h30, sa chanson, entre autres, Madame Héroï.
Avec deux, trois chats, lui-même. choses, on n'y pense pas. Quand elle regarde dans sa boule l'avenir qu'on aura, c'est ni une sœur ni une poule, non, c'est Madame Irma. Elle connaît toutes les histoires, plus ou moins anciennes. Elle donne le frisson ou l'espoir d'une cartomancienne. Juste pour du mar de café, ton cœur plein d'émoi. Ni une sorcière, ni une fée, non, c'est Madame Irma. Le jour et la nuit, comme elle vit sa vie, son sourire et son regard t'aimeront par hasard. Comme elle aime, toujours comme elle aime d'amour. Les tricheurs qui ont eu du pot n'auront pas sa peau. Y'a pas de carte de tarot sur les internets. On dit c'est un drôle de boulot, non c'est pas bien net. Elle a pas fait les grandes écoles, l'X ou bien l'ENA. Ni une escroc, ni une folle, non, c'est Madame Irma. Elle vit au fond d'une roulotte depuis longtemps déjà. Il lui manque quelques notes, t'en fais pas pour ça. Elle en a fait des tours sa boule, la vie ne le dit pas. C'est ni une sœur ni une poule, non, c'est Madame Irma. Les joies, les gens...
Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 17 mars 2014 avec Robert en duplex, Jean-Pierre dans les studios, pour vous parler de la rubrique nationale avec différentes choses. Bah déjà la manif de demain, puisque manif demain, journée de grève même et d'action contre le pacte de responsabilité, hein, c'est-à-dire le tapis rouge et les cadeaux déroulés au patron pendant que les travailleurs n'ont rien du tout. Donc il y a une manifestation, enfin à Lyon du moins, un rassemblement au Cordelier à 11h30 demain matin. Mais dans toute la France aussi, oui.
Oui, les syndicats CGT, IFO, Sud Solidarité, Solidaire, Sud Solidaire et la FSU, hein, et donc en l'absence remarquée, mais ce n'est pas nouveau, de la CFDT et de la CGC, bon, et de la CFTC. Comme on est dans le syndicalisme, là, c'est, ben, on va dire, mort de Marc Blondel, paix à son âme. Alors, Marc Blondel, c'était un athée convaincu, membre de la Libre Pensée. Hein,
donc, oui, il s'était recyclé dans la Libre Pensée, hein, depuis sa retraite, là.
Oui.
Il animait au niveau national la Libre Pensée. Mais on l'a connu quand même 15 ans à FO. Il est mort à 75 ans, ce qui est bon. Je ne sais pas ce qui y est arrivé, si c'est une maladie ou un arrêt cardiaque, mais. Et 15 ans.
Alors, les dernières fois qu'on l'a vu en image, il n'avait pas bonne mine. Hein.
Enfin, c'était un personnage revigorant, hein. Il faisait plaisir à entendre, quoi.
Ah, c'était un des grands tribuns qui manque beaucoup. Bon, on en a un au front de gauche avec Mélenchon, mais dans le milieu syndical, il n'y en a plus du tout de tribuns, il n'y en a plus du tout. C'est surprenant, parce que s'il y a un lieu où vraiment des tribuns, ça devrait être presque quelque chose de naturel, parce que c'est pas évident de prendre la parole. Il faut souvent prendre la parole dans les usines, dans les ateliers, dans les bureaux, et ça, pour déclencher un mouvement, et ben, faut souvent être tribun. Ça veut dire que maintenant, tout se prépare en amont. On ne fait plus maintenant on ne fait plus les grèves ou les manifestations par des soulèvements spontanés, entraînés par l'enthousiasme d'un tribun.
Il avait un petit peu radicalisé les forces ouvrières. Hein. On avait connu Bergeron avant, qui était beaucoup plus négociateur à tout craint. Et Blondel, avec sa, on va dire, sa grande gueule, hein, parce que c'est un peu ça, avait quand même fait prendre un virage à forces ouvrières. On sait aussi que forces ouvrières, il y avait eu pas mal d'entrisme trotskiste qui dans cette truc protéiforme, quand même, poussait aussi un petit peu le syndicat. syndicat à devenir différemment de la CGT, mais quand même assez revendicatif.
Trotsky, c'est aussi des anarchistes, ceux qui ne se sont pas reconnus dans la CNT, par exemple. Il y a des régions comme la Loire-Atlantique où il faut, c'était aussi des anarchistes qui étaient présents. Alors, je ne sais pas s'ils se revendiquaient, mais ils étaient quand même encore sur le syndicalisme révolutionnaire à l'intérieur de FO. Il y avait une autre quelque chose qui est resté comme une ombre dont on n'a jamais eu la clarification. C'est l'époque où FO, et je ne sais pas si Blondel a hérité de cela et s'il en a profité d'une manière ou d'une autre, c'était le fait que de l'argent arrivait par les syndicats américains, la FLCIO, et donc on soupçonnait plus ou moins indirectement par la CIA. Mais ça, c'était peut-être dans la période d'avant.
Oui, c'est le début de l'histoire de FO. Hein. Enfin, les historiens ont tendance à considérer que FO a été lancé, constitué par la CIA pour faire un bloc face à la CGT, quoi. A été instrumentalisé, on va dire, par la CIA, quoi. Mais ça, c'est le début. Je pense que depuis, ça, c'est une affaire qui s'est évanouie dans le temps, quoi.
Et on ne sait pas jusqu'à quand, effectivement, ça a pu continuer, parce que peut-être, qui sait, jusqu'à la chute du mur, hein, c'est pas impossible, hein, mais sous des formes peut-être différentes, mais c'est pas dit que ça a pu continuer.
Voilà, autre sujet.
Je voulais faire une petite page sur le nucléaire, parce que ben on est dans la période des mauvais souvenirs, naturellement, puisque on vient de rappeler les 3 ans de Fukushima, et que dans quelques semaines, on rappellera 1986 jusqu'à 2014, ça fait quoi, 86, ça fait 28 ans, hein,
28 ans, oui.
Les 28 ans de Tchernobyl. Tchernobyl en Ukraine, hein. C'est bien en Ukraine, Tchernobyl, hein.
Ouais.
Les souvenirs sont bons. Ouais. Ça fait drôle, hein, de parler de Tchernobyl, alors que on parlait de Kiev d'ailleurs au moment de. On se demandait si Kiev ils vont être obligés d'évacuer Kiev, mais c'était pas nécessaire parce que les vents finalement ont mené le nuage nucléaire partout sauf sur la France. Enfin, c'était les prétentions de nos experts en surveillance du nucléaire en France à l'époque. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le réseau Sortir du nucléaire a proposé à tout le monde une campagne Sortir du nucléaire qui a démarré le 8 mars, donc c'est du tout récent, et ça va durer jusqu'au 26 avril, et partout, en France, en Europe, mais là, pour le réseau Sortir du nucléaire, comme c'est dans l'Hexagone, il y a pas mal de manifestations sur ces 50 jours qui sont prévus sur la base. Il faut sortir maintenant du nucléaire pour éviter la catastrophe. Et c'est une mobilisation dont on a effectivement bien besoin. Alors qu'effectivement, on n'est même plus tellement sûr que la promesse de fermer Fessenheim soit tenue dans les délais. Autre chose aussi, est arrivé, effet du hasard et de la justice, la condamnation aujourd'hui de 9 membres de Greenpeace qui s'étaient introduits sur le site de Cadarache. Ça, c'était à la fin 2011. Et donc, les peines sont lourdes, 4 à 10 mois avec sursis, selon le degré de responsabilité que leur a reconnu le tribunal, et 70 000 euros d'amende. Naturellement, je pense que un appel va être. Ce jugement sera l'objet d'un appel, mais n'empêche que le fait que ce soit annoncé aujourd'hui, c'est assez surprenant. Et sur ce dossier nucléaire, je voulais dire aussi la sortie qu'on peut conseiller d'un livre, le livre publié par les éditions Agone, Et c'était le livre par Noam Chomsky, que tout le monde connaît bien, je pense, chez les auditeurs et les auditrices de Radio Canu. Ça s'appelle « Guerre nucléaire » au singulier et « Catastrophe environnementale » au pluriel. Chomsky a l'habitude effectivement de mettre les pieds dans le plat. Bon, ça, il a pas eu de mal parce qu'effectivement là-dessus, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus, mais le fait que les grands militants comme ça de la pensée alternative sur la planète, eh bien, estiment aujourd'hui, comme Chomsky, que c'est un enjeu majeur, immédiat, et qu'il faut dire non tout de suite au nucléaire.
Oui, je voulais dire un mot aussi du procès de Simbi Kangwa, hein, le procès d'un génocidaire. Donc ce personnage a été reconnu comme complice du génocide des Tutsis au Rwanda et a pris 25 ans de prison. C'est une satisfaction pour les gens qui avaient engagé cette action contre un personnage dont la culpabilité faisait pas tellement de doute. Il était de notoriété publique, il a fait partie des animateurs de la radio Milconine, enfin beaucoup de choses. Alors, bon, d'un côté des gens qui veulent faire justice par rapport à toutes ces exactions, ils nous rappellent qu'il y a encore un certain nombre en France de gens accusés de ce génocide qui seraient éventuellement à juger. Et puis, si le sujet vous intéresse, ce 19 mars, donc c'est après-demain, ça, mercredi, à 20h, à la Maison des Passages, il y a une conférence sur entre autres, sur la complicité de la France dans l'organisation du génocide Tutsi. Mercredi, 20h, Maison des Passages.
Bataille signalée très rapidement, peut-être que cette bataille autour du cœur artificiel. Hein, on a droit à des déclarations contradictoires. Dans un premier temps, il n'était plus question d'en faire et surtout d'en implanter aussi longtemps qu'on ne saurait pas pourquoi le patient qui avait un cœur artificiel est mort subitement. Et puis, aujourd'hui, on a un peu un discours plus nuancé en disant que, carrément, on va reprendre les implants de cœur artificiel. Tout en laissant entendre que finalement on voudrait quand même savoir ce qui s'est réellement passé.
Mais je crois qu'on sait, hein, la machine est tombée en panne, hein, c'est pas le patient, oui. C'est le cœur qui a lâché. Alors je sais pas si effectivement ça va les amener à revoir un peu l'origine de la panne, quoi. Mais bon, on peut s'en désoler, bien sûr, c'est triste, mais en même temps, cette personne-là, comme d'autres susceptibles d'être opérées, ont une espérance de vie extrêmement brève. Ils savent qu'ils sont condamnés. Oui. Alors, ils tentent le coup. Bon, oui. Pourquoi pas, quoi.
Mais c'est ce qui est intéressant, et on voit que tout ça en même temps, et on le sait que le grand niveau de la médecine est très lié à l'argent, c'est qu'il y a cette même... Les premières déclarations avaient été suivies entre les deux déclarations. Il y a eu aussi l'annonce par les protagonistes eux-mêmes que le monde de la science et de l'argent s'intéressait et croyait vraiment en l'avenir de ce cœur artificiel, puisque le capital avait reçu de multiples souscriptions nouvelles et de l'ordre de 12%, enfin plus de 10%, une augmentation des rentrées capitalistiques sur ce secteur-là.
Voilà, ben les automobilistes franciliens vont pouvoir déposer plainte pour discrimination, puisque ceux d'aujourd'hui qui n'ont pas pu prendre leur bagnole, demain les numéros pairs pourront la prendre, et les impairs aussi. Donc tous les automobilistes disposant d'un numéro impair ont été discriminés aujourd'hui devant la loi. On va voir s'il y a des appels pour tout ça. Il n'est pas sûr que ce genre de mesure résolve les problèmes à tout niveau, mais enfin, ça a beaucoup fait parler et ça a satisfait certains. On nous a fourgué le diesel de force pendant des dizaines d'années. Maintenant, on nous dit qu'il faut le lâcher, c'est les mêmes d'ailleurs. Et puis, on s'intéresse à beaucoup de pistes. On ne s'intéresse pas à beaucoup de pistes qui pourraient être exploitées aussi pour la réduction de la pollution. Mais bon, on ne va peut-être pas développer ce sujet qui ferait l'objet d'une émission entière, à moins que tu aies un petit point de vue à faire valoir là-dessus, Romain.
Non. J'en ai un point de vue à faire valoir, c'est sur le cinéma, parce qu'il faut profiter encore de ce soir et de demain pour aller au cinéma à 3,50 €.
Non, ça ne dure que deux jours, cette affaire.
Et ça a duré trois jours. Ça a commencé hier, ça se poursuit aujourd'hui, lundi, et demain, mardi. Par contre, alors là, c'est à déconseiller. La BNP Paribas, qui est souvent dans les coups sur le cinéma, a décidé de prolonger cette part du système. On peut avoir des places à 3,50 également avec les certaines salles et la BNP. Alors là, eh bien, tout à fait personnellement, on peut appeler au boycott de cette opération BNP Paribas, tout simplement parce que Paribas, on sait, c'est la banque qui a le plus, parmi les Françaises et même au plan international, le plus de paradis fiscaux et beaucoup de sociétés écrans dans ces paradis fiscaux. Paribas est en tête de la liste et n'a rien à faire des timides propositions qui sont faites en France.
Si tu en es là, il va falloir que tu arrêtes de téléphoner sur Numéricable aussi, qui va bientôt absorber Free ou SFR, on ne sait pas trop, puisque le grand patron escroc financier qui dirige ça vit en Suisse, a ses comptes à Guernesey, ses actions aux Pays-Bas et une société au Luxembourg, enfin que des paradis fiscaux. Mais on est cerné, on sait bien que on est tranquille quand même parce que Hollande a dit que la finance c'était son ennemi, donc il va faire le nécessaire. Il va arranger tout ça et mettre tout ce monde là ou pas, vous allez voir, d'ici la semaine prochaine avant les élections. Allez, tu as un peu de culturel ou tu avais encore un sujet à traiter rapide?
Non. On peut simplement dire c'est J-6. Mais quand on a dit ça,
on a tout dit. Les municipales, oui, rendez-vous lundi prochain pour commenter quelques résultats. Voilà, quelques annonces. Eh bien, à tout bout de champ, jeudi, Maya Kamati, Olivier Bellil. Vendredi, Benoît Paradis et Geneviève Morissette. Au Théâtre des Marronniers, jusqu'au 24 mars, La Province des Rois Immolés, une pièce de théâtre avec musique. On dira aussi qu'il y a les transversales du 21 au 28 mars, c'est à Théo Argence. On dira que Gérard Mémon avec son complice Cohen seront au Périscope, rue de Lalande, dans le deuxième, ce samedi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Qu'il y a aussi
une festival de jazz à Vaux-en-Velin, mais oui, il est peut-être fini, j'arrive peut-être trop tard.
Non, pas du tout, mais c'est difficile de détailler, il y a beaucoup de concerts. Dans le même esprit, il y a les 30e reflets du cinéma ibérique et latino-américain qui vont commencer le 19 mars, mercredi, au Zola, hein, jusqu'au 2 avril, avec une belle programmation, comme à l'habitude. Et puis, ben, on le rappellera la semaine prochaine, mais on peut déjà le dire, parce que c'est mardi et mercredi. André Bonhomme sera les 26 et 27 mars au Carré 30 avec un nouveau récital. 26, 27 ou 25, 26, que je ne dise pas de bêtises, c'est 26, 27, mercredi, jeudi, oui. Voilà, on arrive un petit peu au terme de ce Canu Info, qui sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pourrez également l'entendre sur Internet à partir de ce soir. Et puis, ben, pour ce qui est du Canu Info du lundi, rendez-vous la semaine prochaine à 20h et tous les soirs à 19h, en principe, Canu Info. Ne quittez pas l'antenne. Bonne soirée à l'écoute de Radio Canu.